Oui, à soir, on sort aux vues. C'est la revue Continuité qui nous a donné envie de faire tourner cette chanson, qui consacre une bonne partie de son numéro au cinéma. Patrimoine et cinéma, projection dans le passé. Donc, vous déroulez le tapis rouge pour le cinéma et le patrimoine de chez nous. Josiane Ouellet, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, en effet, donc ça fait un petit bout de temps là, qu'on avait envie de parler de cinéma dans le magazine. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'on voulait, dans ce dossier-là, aborder non seulement le patrimoine du cinéma, mais aussi le patrimoine qu'on voit à l'écran. Donc ça, on trouvait que c'était un angle intéressant, alors ça nous a donné le goût de creuser cette question-là.
Ah oui, super dossier. Comme d'habitude, là, très bien fait, plein de détails, des photos en noir et blanc, il y a beaucoup de couleurs également. C'est presque 30 pages.
Oui, c'est vraiment un bon dossier. En fait, je me suis un peu payé la traite. Moi, je viens du milieu du cinéma. Alors,
ah oui?
C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. En fait, j'ai fait des études en cinéma. C'est ça. Donc, oui, d'une part, on a voulu quand même parler un peu de l'histoire du cinéma québécois avec le directeur de la Cinémathèque, Marcel Jean, donc qui a aussi pu nous parler des collections de cette institution-là qui est vraiment très importante quand on parle de patrimoine cinématographique au Québec. On a voulu parler aussi de l'architecture, donc s'intéresser au cinéma patrimonial.
Parce qu'il y a des cinémas merveilleux qui sont toujours existants. Il y en a qu'on a détruits, malheureusement, mais qu'on pense au cinéma Outremont, qu'on appelle aussi le Théâtre Outremont ou l'Impérial à Montréal, pour ne nommer que ceux-là.
Oui, en fait, ce sont deux très, très bons exemples. Donc, effectivement, le cinéma Outremont qui est devenu le théâtre, justement, on l'a choisi pour illustrer notre page couverture. Alors, on s'est rendu sur place par des photos et puis le décor intérieur est signé Emmanuel Briffa. Alors, vraiment, c'est de toute beauté et on a même eu la chance. En fait, ils ont baissé le rideau coupe-feu qui a été d'Emmanuel Briffa. Donc, c'est ce qu'on voit sur la couverture du magazine. Donc, ce magnifique rideau coupe-feu.
C'est vrai qu'il est beau, hein, avec une armoirie, là.
Oui, effectivement, et c'est ça. Donc, je me suis trouvée très chanceuse là, qu'il le descende pour nous.
Juste pour vous.
Photos. Oui, c'est ça, il ne descend pas souvent. Mais donc, on a pu faire les photos comme ça. Puis le magnifique intérieur avec tout le travail, le plafond, toutes les décorations, c'est magnifique. Alors, effectivement, il y a le théâtre Outremont. Mais justement, à Montréal, vous êtes très, très chanceux. Vous en avez beaucoup de superbes cinémas. En fait, les 5 cinémas patrimoniaux qui sont classés au Québec, donc les 5 cinémas qui sont reconnus là, par le gouvernement du Québec pour leur valeur patrimoniale, sont tous à Montréal. Alors, il y a effectivement l'Outremont, il y a le cinéma Impérial qui, lui aussi, continue, qui est encore en activité, qui présente encore des films. Alors, ça, c'est merveilleux. Il y a le Corona, le Château et le Rialto. Donc, vous êtes vraiment choyés.
Mais le Château, ça ne me disait rien. C'est situé où? Est-ce que vous avez l'information sous les yeux, Josiane?
Je vous avoue, ce n'est pas une
question piège, là. Mais de toute façon, l'information, on la trouve dans le texte, là, mais là, ça m'échappe.
Le château, oui, c'est ça. L'information que j'ai rapidement, là, c'est qu'il fait partie des immeubles classés. Là, mais,
parce qu'il y a des cinémas qui sont devenus aussi des théâtres ou des salles de spectacle. On pense au Rialto, qui n'est plus un cinéma, mais qui, quand même,
ça,
accueille les gens.
Ils ont gardé leur vocation.
Non, c'est ça. Ouais.
Oui, d'ailleurs, justement, le château... le château sert encore de salle de spectacle.
De salle de spectacle.
Oui, c'est ça. Pas de cinéma, mais de salle de spectacle. Mais là, pour vous le situer exactement, j'aurais de la misère. Là. Je vous avoue là, que je sais qu'il est à Montréal, mais comme je connais pas le...
On va regarder ça, de toute façon.
donc, c'est ça. Donc, justement, vu que les salles qui sont vraiment classées sont à Montréal, on s'est dit on va vraiment consacrer un texte au cinéma à Montréal. Alors là, il y a vraiment un texte qui est consacré à cette question-là. On revient dans l'histoire, justement, parce que, bon, là, ça, c'est cinq salles, mais il y en a eu beaucoup plus que ça à travers le temps. Certaines qui existent encore, justement, dans notre texte, là, on en a une. On parle de certaines salles qui ont changé complètement de vocation. Là, le cinéma Rivoli, par exemple, on le voit, là, aujourd'hui, il y a un Pharmaprix à l'intérieur.
Ouais, ça, c'est un petit peu dommage.
Oui, mais l'architecture, quand même, à l'extérieur, c'est sûr que là, les intérieurs... Évidemment, on peut être conservé, mais ouais. Au moins, on a quand même gardé l'édifice.
Donc, oui, oui. Ça, c'est pas perdu, mais la bannière, me semble, convient pas. Mais enfin, on peut pas tout avoir, paraît-il. Mais ça nous ramène aussi à des souvenirs selon l'âge qu'on a, là. Oui. Moi, étudiante, je me souviens que j'allais souvent au Wimétoscope.
Oui, oui, oui.
Oui. Un cinéma de répertoire fantastique.
Ça, c'est vraiment historiquement là, très, très important, là, le fameux Wimétoscope qui a été le premier à ouvrir et qui a eu évidemment beaucoup de descendants par la suite, effectivement.
Josiane, Nicolas, notre metteur en onde, a fait la recherche et oui. Le château est situé sur la rue Saint-Denis.
Ah, OK, parfait. Vous voyez ma connaissance de Montréal, j'y vais quand même de temps en temps, mais je
ne suis
quand même pas calée.
Non, ben moi, j'habite Montréal et puis j'ai pas tout ça non plus en mémoire facilement. Il y a aussi, toujours en ce qui concerne le dossier patrimoine cinéma, miroir autochtone.
Oui, c'est ça quand je vous disais qu'on voulait parler aussi du patrimoine qu'on voit à l'écran. C'est ça, donc on a demandé à deux organismes, donc Terre en vue, donc qui s'occupent du festival Présence autochtone, et Wapikon Immobile, de sélectionner, de faire découvrir à nos lecteurs des films qui mettent en valeur le patrimoine autochtone. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant là, pour nous amener à aller voir des films. Ça peut être, il y a des films de fiction, des documentaires. Du côté de Wapikon Immobile, ce sont des courts-métrages. Du côté de Terre en vue, ce sont des longs-métrages. Alors, ça nous fait faire des super belles découvertes. Et on a demandé aussi à Archéo-Québec de nous faire découvrir des films qui mettent en scène, en valeur, le patrimoine archéologique. Alors, là encore, ça nous permet vraiment des belles découvertes. Là. Ça, on trouvait ça intéressant. Puis, pour faire découvrir aussi pour s'intéresser à la question du patrimoine qu'on voit à l'écran, on voulait vraiment se pencher sur les lieux de tournage.
Ah donc, oui!
Les bâtiments patrimoniaux, les sites qui servent de lieux de tournage. Bon, quels sont les lieux de tournage, là? Quels sont les lieux où on va souvent tourner des films?
Donnez-nous quelques exemples.
Ben en fait, on parle entre autres du village de Saint-Armand en Estrie, où il y a quand même eu récemment quand même pas mal de tournages, entre autres l'arracheuse de temps, là, tiré d'un conte de Fred Pellerin. Ça a été tourné là, donc le film qui sortait cet automne. Et il y a aussi la série Three Pines qui va être sur Prime bientôt, qui n'est pas encore sortie, qui a été tournée dans le village. Et donc, on a une entrevue, entre autres, avec les propriétaires du magasin général.
Beau, là.
Oui,
Three Pines, qui est basé sur des romans policiers de Louise Penny, qui vit dans les cantons de l'Est.
C'est ça, exactement. Donc, on voulait voir aussi pour les gens qui vivent dans des bâtiments patrimoniaux ou qui s'occupent de bâtiments patrimoniaux et qui accueillent des équipes de tournage, comment ça se passe?
Oui, oui.
Alors là, on a les propriétaires du magasin général qui nous racontent là, comment ça a été d'accueillir l'équipe de Three Pines, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des travaux même sur leur magasin.
Ah.
Même des choses qui vont rester, là, ils sont bien contents. Il y a des choses qui ont été restaurées.
Et ils sont payés aussi pour...
Ils sont payés pour recevoir l'équipe de tournage. Donc, c'est bien intéressant de voir ça. Puis on voit d'autres lieux, là, comme le musée Missisquoi qui a trois bâtiments patrimoniaux. Ben, eux aussi, il y a déjà eu un tournage dans leur magasin général. L'abbaye d'Oka aussi, qui est très, très populaire pour toutes sortes de tournages. C'est vraiment fun de voir ça. Puis on parle aussi des tournages qui ont lieu à Montréal. Bien là, évidemment, ce qui est un peu Un des commentaires qu'on a recueillis, c'est le fait que souvent, les équipes qui vont tourner à Montréal, c'est pour représenter une autre place.
Donc, oui, c'est vrai. Hein, c'est populaire parce que j'imagine que c'est moins cher. Parce qu'il y a beaucoup de productions hollywoodiennes. En tout cas, il y en avait beaucoup.
Oui, c'est
là.
Ça, beaucoup de productions hollywoodiennes. Souvent, c'est pour soit pour représenter l'Europe ou...
On se retrouve dans le Vieux-Montréal.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, la personne qu'on a interviewée nous disait, on aimerait ça des fois qu'ils viennent filmer à Montréal pour Montréal. Donc, il parlait différents, justement, les édifices qui étaient particulièrement populaires, là, comme l'hôtel de ville, le hall de l'hôtel de ville avait servi assez souvent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis, l'autre aspect qu'on voulait absolument aborder, c'était le côté des antiquités qui servent d'accessoires de tournage.
Ah, oui.
Et tous les objets qu'on voit à l'écran. Donc, quand on veut recréer une époque à l'écran...
Oui, c'est la journaliste Francine Saint-Laurent qui a rencontré un chef accessoiriste.
Oui, elle a fait des entrevues avec trois accessoiristes. Mm-hmm. Alors, on voulait voir un peu avec eux. Il y en a trois, en fait. Elle a parlé à Mathieu Jacques, qui était l'accessoiriste des Pays d'en haut, la série, qui était très populaire au Québec. Elle a parlé aussi à Dominique Brunel, qui lui a travaillé sur le film La Bolduc. Et à Benoît Jolivet, qui a travaillé entre autres sur la série Barskin.
Alors, c'est un métier qui est populaire chez les hommes, on dirait. Malgré qu'il y a des femmes accessoiristes aussi.
Oui, ça a donné que c'était trois accessoiristes masculins. Mais tu voulais voir avec eux où est-ce qu'ils trouvent leurs objets, comment ils font leurs recherches.
Ah, oui.
Quand ils ne trouvent pas l'objet, qu'est-ce qu'ils font?
Comme par exemple, un graveur de disque 78 tours.
Oui, c'est ça. Alors, pour la Bolduc, justement, ben il n'y avait pas l'objet. Alors, c'est le Musée des ondes qui leur a fourni une partie de l'objet. Ils ont reconstitué le fameux graveur de disque qu'on voit à l'écran dans le film et qui même maintenant a été remis au musée. Alors, le musée conserve le graveur donc pour montrer là, vraiment...
Alors, ça crée des beaux échanges, ça enrichit tout le monde.
Oui, effectivement. Puis c'est quand même intéressant de découvrir là, comment on fait pour reconstituer le passé à l'écran, en fait. Là, c'est quand même, il y a tout un défi.
Oui, paraît-il qu'on trouve pas mal de choses sur les packs Gigi et Marketplace.
Oui, c'est ça. Ils ont plein de trucs, évidemment, là, mais effectivement, avec ces outils-là, aujourd'hui, ça facilite leur travail là, avec toutes les recherches qu'ils peuvent faire en ligne. Mais c'est des gens aussi qui ont des bons carnets de contacts. Là. Ils connaissent beaucoup de monde. Ils connaissent des antiquaires.
Voyons un réseau.
Oui, puis ils font beaucoup de recherches aussi. Tu sais, ils se documentent, ils en apprennent beaucoup sur les époques qu'ils doivent reconstituer, là, les objets qu'ils doivent trouver et tout ça. Là. Donc, c'est bien, bien intéressant.
Vraiment, un beau dossier dans la revue Continuité numéro d'hiver 2022. Et Josiane, il y a d'autres choses aussi dans ce magazine-là, parce qu'il y a quand même une cinquantaine de pages. Une cinquantaine de pages. De quoi vous vouliez nous parler?
Oui, bien en fait, effectivement, chaque numéro, on a un dossier thématique, mais on a aussi des chroniques sur toutes sortes de sujets variés. Et cette fois-ci, je vous avoue qu'il y a une chronique qui a vraiment retenu mon attention parce que c'est un sujet qui est très original et très dans l'actualité.
Je ne sais pas si c'est le même que moi. Est-ce qu'il est signé Alexandre Lemay?
Oui, exactement. Oh,
on est sur la même longueur d'onde.
Donc, c'est ça. Alexandre a remporté la bourse d'écriture Première Ovation Patrimoine. Donc, ça, c'est un programme à la Ville de Québec pour encourager la relève en patrimoine. Et donc, il y a des bourses d'écriture comme ça chaque année pour le magazine Continuité et Capot Diamant. Quand on a reçu son dossier, tout de suite, on a été charmé par le sujet. Alors, lui, c'est ça, dans son texte, il a abordé le mode découverte, donc le Discovery Tour du jeu vidéo Assassin's Creed, la franchise Assassin's Creed. En fait, ce qui est particulier, c'est que justement, ces jeux vidéo-là s'accompagnent d'un mode découverte qui permet aux joueurs, aux utilisateurs, d'en apprendre plus sur l'époque à laquelle se déroule le jeu. Donc, c'est très éducatif. Il y a plein de choses. C'est très riche. Alors, il nous présente ça, mais aussi, surtout, il s'intéresse à l'impact que ça a pour la mise en valeur du patrimoine. Comment le jeu peut devenir vraiment une porte d'entrée pour justement s'intéresser à l'histoire et au patrimoine. C'est ça, pour les jeunes, souvent, c'est comme ça qu'ils ont la piqûre et qui vraiment développent un intérêt.
Tous les chemins mènent au patrimoine et c'est bien comme ça.
C'est ça. Donc, il s'est vraiment intéressé à ce rapport-là. Et puis, ben, justement, il a donné certains exemples. Donc, il a parlé à un professeur qui utilise le jeu dans ses cours. Donc, pour vraiment mettre en contexte les notions qu'il amène en classe. Puis aussi, on voit que ça commence à être utilisé dans les musées. Alors, entre autres, à Pointe-à-Calière, pour l'exposition Reine d'Égypte, ils se sont servis du mode découverte pour mettre en contexte les objets. Donc, il y avait des projections en arrière des objets, par exemple, de la vie quotidienne en Égypte à l'époque. Alors,
Pour en savoir plus, il faudra mettre la main sur Continuité qui est en kiosque depuis quelque temps et en format numérique disponible magazinecontinuité.com. Il y a aussi les articles qui sont vendus à la pièce au coût de 85 cents l'unité. C'est beau, bon, pas cher.
Effectivement.
Et Josiane, il reste quelques secondes. J'aimerais vous dire un grand, grand merci parce que vous quittez votre poste de rédactrice en chef au magazine Continuité pour d'autres défis. Et je dois vous dire que ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Puis j'espère qu'on va avoir d'autres occasions pour se retrouver.
En fait, c'était un plaisir partagé. Puis un gros, gros merci de votre intérêt pour le magazine. À chaque numéro, c'est toujours tellement agréable de vous parler.
Merci, Josiane. Et puis bonne chance pour la suite. Puis on va continuer de lire Continuité. À bientôt.